Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et nous sommes de retour pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. Nous sommes vendredi, c'est donc la libre antenne pour terminer la semaine. Vous réagissez à l'actualité de votre choix, vous décidez du contenu de l'émission et vous nous interpellez sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours dans l'actualité, sur les principaux événements, mais aussi c'est l'occasion de nous sensibiliser à des sujets dont on ne parle pas suffisamment, selon vous, sur notre antenne. Vous nous rejoignez où que vous soyez, RFI vous donne la parole, 33 9 693 693. 1370, les réseaux sociaux et notamment la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Vous êtes, comme chaque semaine, encore nombreux à souhaiter commenter la situation au Burundi, la tension sur place, puisque depuis bientôt deux mois, l'opposition et la société civile contestent la candidature du président Nkurunziza, un troisième mandat. Pierre Nkurunziza qui est au pouvoir depuis 10 ans maintenant. Le Burundi qui sera à l'ordre du jour du sommet de l'Union africaine qui a déjà commencé hier avec les ministres, et on attend évidemment l'arrivée des chefs d'État et de gouvernement en Afrique du Sud ce week-end. Bonjour Belize.
Bonjour Monsieur Juan.
Vous nous appelez de Bujumbura, vous êtes sur place dans la capitale burundaise, et au regard de la situation et des réactions notamment du gouvernement burundais qui a annoncé hier que voilà, il n'y avait plus de contestation, qu'il n'y a plus de manifestation, ni dans la capitale, ni à l'intérieur du pays, vous êtes ce matin très très pessimiste.
Oui, je suis très très pessimiste. Et c'est très drôle d'entendre le gouvernement dire que les manifestations sont finies alors qu'on entend toujours des tirs partout ici dans les quartiers de Bujumbura. Le gouvernement veut étouffer à tout prix les manifestations pour organiser les élections. Et nous savons très bien que si ces élections ont lieu, c'est sans doute que M. Nkurunziza sera élu pour un troisième mandat que nous, la population, nous ne voulons en aucun cas.
Ouais. Vous parlez des manifestations, Belize. Vous avez dit au Standard que vous avez beaucoup, beaucoup manifesté jusqu'à la tentative du coup d'État, où à partir de ce moment-là, vous avez pris peur. C'est-à-dire que vous n'osez plus aujourd'hui rejoindre la mobilisation dans la rue.
Oui, parce que les manifestants sont assimilés aux putschistes. Parce que maintenant même, la police, quand ils tirent sur les manifestants, ils disent « Oh, vous étiez de mèche avec les putschistes ». Et ils n'ont aucun vergogne, ils tirent n'importe comment, ils arrêtent tout le monde, ils entrent même dans les maisons pour tuer des manifestants qui se sont réfugiés là-bas. Donc, il est carrément impossible de manifester maintenant.
Les manifestations qui, je le rappelle, sont interdites depuis le début de la contestation, et elles sont, vous le disiez, Belize, violemment réprimées. Ne raccrochez pas, Belize, je voudrais qu'on accueille un auditeur de la République démocratique du Congo. Henri, il est à Kinshasa, il suit, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, la situation au Burundi. Bonjour Henri.
Bonjour Juan.
Et malgré le pessimisme à l'instant exprimé par Belize, vous dites c'est déjà une bonne chose que d'avoir reporté les élections.
Oui, effectivement, ça veut dire ce report des élections voudrait dire en d'autres termes que Nkurunziza, ce monsieur qui est en train de traumatiser sa population, n'a plus toutes ses cartes en main. Donc, pour moi, ce premier report, c'est une bonne chose, mais je vous dis que vous me donnerez raison, il y aura encore un troisième report, parce que la situation telle qu'elle se présente là, il fait l'usage de la force, donc la population a rejeté, la communauté internationale rejette également son troisième mandat, la société civile, et même dans la sous-région, nous ne voulons pas de ce genre de comportement, parce que les dirigeants africains doivent comprendre une chose, c'est que l'époque de mandat de longue durée, vraiment cette époque-là est déjà révolue. Nkurunziza n'a qu'à prendre sa responsabilité, respecter les engagements des accords d'Arusha pour pouvoir se retirer, laisser le pays aller de l'avant, parce qu'il n'est pas le seul Burundais à être capable de diriger cette nation-là. Donc moi, ce que je demande à la communauté internationale, de continuer à faire la pression, que la population n'ait pas peur, parce qu'effectivement, il veut qu'il y ait la peur dans les chefs de la population pour que lui puisse en profiter et faire son jeu. Que la population n'ait pas peur, que la pression continue, et aussi que la communauté internationale puisse isoler ce monsieur-là, de sorte qu'il se sente vraiment asphyxié, ou que véritablement qu'il ne soit pas un mauvais exemple pour les autres présidents.
En même temps, Henri, en étant à l'extérieur, c'est facile de dire, il faut que la population n'ait pas peur. Belize, qui est toujours en ligne avec nous, elle nous disait pourquoi elle a peur et pourquoi elle n'ose plus aujourd'hui descendre dans la rue et manifester contre la candidature de Pierre Nkurunziza. Belize, le report de la présidentielle qui sera donc organisé, pour l'instant la date qui a été fixée c'est le 15 juillet, est-ce que ça, vous pensez que ça va permettre d'ici là peut-être de relancer le dialogue inter-burundais ou pas du tout?
Non, je ne pense pas que le dialogue inter-burundais est capable d'aboutir à quelque chose de concret. Parce que pour le gouvernement, la question du troisième mandat n'est pas discutable. Et pour l'opposition, c'est le troisième mandat ou rien. Et je pense que tout le monde campe sur ses positions. Et maintenant, on assiste à une guerre de tranchées et qui n'aboutira à rien. Et sincèrement, on ne peut même plus compter à la communauté internationale parce que on ne pense pas que la communauté internationale peut faire grand-chose. Encore moins l'Union africaine. Si nous voyons qu'à la tête de l'Union africaine, il y a M. Mugabe, qui nous savons comment il dirige son pays. Alors, sincèrement, ici au Burundi, on est un peu pessimiste de ce que la communauté internationale peut faire.
Merci Belize d'écouter RFI évidemment et de nous avoir appelé, d'avoir eu ce courage de vous exprimer et de nous donner un peu votre vision de la situation sur place. Bon courage à vous, merci évidemment à Henri qui nous appelait de Kinshasa. 33 9 693 693 70. Mamadou, bonjour.
Bonjour Paul.
Bienvenue sur l'antenne d'RFI. Vous êtes à Thiès, au Sénégal, et vous réagissez aux conclusions d'un groupe de travail de l'ONU qui considère que la détention de Karim Wade est arbitraire. Karim Wade, ancien ministre, fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, et il a été condamné en mars dernier à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Et vous êtes estomaqué par la prise de position des experts de l'ONU.
Absolument. Je pense que si aujourd'hui, au niveau mondial, les gens s'inscrivent dans une dynamique de lutte contre la corruption et la mal-gouvernance, et qu'au moment, paradoxalement, on arrête un processus, on demande la libération d'une personne au moment où les instances du pays concerné ont décidé de condamner la personne sur des bases qu'on peut... on peut épiloguer sur le fait de dire que si les bases sont solides ou pas, mais une procédure a été entamée et le monsieur a été condamné. Donc on ne comprend pas aujourd'hui.
Mais il a été condamné, mais les experts de l'ONU estiment qu'il y a eu plusieurs manquements et violations, aussi bien des lois nationales que du droit international.
Mais écoutez, Juan, moi je pense que c'est cette conclusion qui pose problème, parce que quand on statue sur des bases qui ne sont pas contradictoires, on nous a clairement dit que les gens n'ont pas reçu la réaction du Sénégal. Or, dans un dossier aussi solide, aussi sérieux, je pense que même s'il faut déroger, attendre 2 jours, 3 jours ou même 1 semaine de plus pour avoir les éléments contradictoires qui permettent de prendre une décision définitive, il fallait le faire. Moi je pense qu'apparemment on s'est précipité pour déclarer que le Sénégal est folklore et donner des conclusions.
Oui, enfin, en même temps, il y a un fait qu'on peut pas contredire, c'est les délais de procédure. L'ONU estime que les délais n'ont pas été respectés, puisque les textes qui régissent la Cour, qui a jugé donc l'ancien ministre sénégalais, fixaient à 9 mois le délai de la procédure. Or, en réalité, la procédure a été 2 fois plus longue. Ça a pris 18 mois. Donc là, voilà, ça c'est un point sur lequel les experts pointent du doigt.
Oui, mais écoutez, Juan, ces messieurs sont tellement futés qu'ils ont pu brouiller des pistes que l'État du Sénégal a pris et la justice sénégalaise était obligée de prendre tout ce temps-là pour justement fouiller. Et aujourd'hui, je suis sûr que l'État du Sénégal a encore besoin de temps pour encore sortir des éléments Nous savons qu'ils ne pourront jamais recouvrer tout l'argent qui a été dilapidé, mais au moins qu'on puisse rentrer dans nos comptes pour une partie de cet argent-là.
D'accord. Parce donc on suivra ça. En tout cas, ce que vous dénoncez, vous, c'est l'ingérence de ces experts de l'ONU dans les affaires judiciaires sénégalaises. Bonne journée à Thiès. Autre sujet qui retient également votre attention dans l'actualité de la semaine, c'est Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte guinéenne. Vous l'avez certainement entendu hier en exclusivité sur RFI. Il a annoncé qu'il rentrera en Guinée entre le 20 et le 25 juin, et il a même confirmé qu'il sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Bonjour Mamadi.
Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les travailleurs de la Gan Radio RFI.
Merci de vos encouragements. Vous êtes à Conakry justement, et lorsque vous avez entendu sur RFI le retour prochain de Dadis Camara, vous dites ce retour c'est une insulte grossière.
Oui, Juan, le retour du capitaine Dadis en République de Guinée pour pouvoir officialiser sa candidature à la prochaine élection présidentielle prévue pour le 11 octobre 2015 est une insulte grossière à l'endroit des familles du 28 septembre, M. Juan. Pour la simple raison que c'était le capitaine Dadis qui était le commandant en chef des forces armées d'alors. Et moi, je pense que cela signifie que d'une part à l'autre, le monsieur peut être responsable de tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre.
Alors, on rappelle un peu ce qui s'est passé effectivement au stade du 28 septembre en 2009. À l'époque, Moussa Dadis Camara était à la tête de la Guinée. Et ce jour-là, l'armée a massacré plus de 157 personnes et violé des centaines de femmes dans ce stade.
Oui, monsieur Wan. Ça a été un massacre. Depuis que la Guinée a eu son indépendance, ça a été le plus grand massacre que notre pays a connu. Parce que, monsieur Wan, vous n'êtes pas sans savoir ce jour-là que nous avons eu la garde présidentielle, les bureaux rouges, les mêmes proches du capitaine Dadis Camara qui s'étaient introduits dans le stade du 28 septembre pour aller tirer des balles réelles sur des personnes qui réclamaient leurs droits les plus élémentaires, c'est-à-dire le droit de se manifester qui est garanti par l'article 10 de la Constitution guinéenne. Mais aussi le retour du capitaine Dadis Camara aussi montre suffisamment que la justice guinéenne ne fait pas son travail. Parce que, M. Wan, comment vous pouvez imaginer, depuis 2009, il y a eu le massacre du stade du 28 septembre. Jusqu'à présent, aucune chose n'est tirée au clair. Alors que les familles de ces massacres sont à l'attente de la justice. Il faut que la justice guinéenne se départie, c'est-à-dire se débarrasse des calculs politiques des acteurs politiques guinéennes.
Ouais. Enfin, y a des enquêtes qui sont en cours, hein. Elles ne sont pas terminées. D'ailleurs, elles avancent peu à peu, hein, puisque ces derniers mois, trois nouvelles personnes ont été inculpées, des personnes qui étaient aux responsabilités à l'époque. Par exemple, le numéro 2 de la junte a été arrêté. D'autres personnes ont été entendues. Dadis Camara lui-même a été entendu sur commission rogatoire au Burkina Faso, où il vit hein, depuis son départ du pouvoir en 2010. Il a été entendu, mais en tant que témoin. C'est vrai que pour l'instant, lui n'est pas inculpé. Et vous parlez d'insultes. C'est exactement ce que disait il y a quelques jours le président de l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. Il parle lui aussi d'insultes. Dadis Camara, lui, dit, mais pour l'instant, je ne suis pas poursuivi et la Constitution m'autorise à me présenter à l'élection présidentielle. Le débat, en tout cas, est loin d'être clos. Et vu le nombre de réactions que nous avons reçues, justement, après l'intervention hier de Moussa Dadis Camara sur notre antenne, eh bien, on lancera le débat lundi. On parlera ensemble de ce retour annoncé de l'ancien chef de la junte guinéenne. Merci Mamadi d'avoir lancé le débat sur RFI. 33 9 693 693 70 Congo-Brazzaville. On va en parler maintenant, car le gouvernement a décidé de suspendre les épreuves du baccalauréat général en raison des fraudes massives. Qui est avec nous? On va commencer peut-être avec Armel. Bonjour Armel.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Brazzaville. Fraude massive, c'est la raison invoquée par les autorités, hein, par le ministre de l'enseignement, qui parle également d'irrégularités graves. Il faut dire que les sujets se sont retrouvés sur Internet. Et vous, eh bien, vous saluez l'initiative du gouvernement. Vous dites qu'il fallait absolument annuler le bac.
Oui, Juan. Nous qui sommes à Brazzaville, nous avons effectivement remarquez comme tout le monde que les épreuves se sont retrouvées partout et qu'un tel examen ne pouvait pas être validé. Il fallait que le gouvernement prenne son courage et annule hein, cet examen-là et pour le reprendre à une date ultérieure. Donc, c'est une bonne décision, c'est tout ce qu'il fallait faire d'ailleurs.
Mais pourquoi c'est une bonne décision? Parce qu'on va accueillir dans un instant Nicodène qui lui est choqué hein, par cette décision. Pourquoi vous défendez le gouvernement, vous, en tout cas le ministre de l'enseignement?
aujourd'hui, on ne peut pas, par exemple, laisser, hein, on ne pouvait pas laisser ce que nous avons vu. On a vu des sujets d'examen sur Internet, donc tous les élèves pouvaient avoir le sujet et venir travailler. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour un examen crédible, il fallait l'annuler. Hein. On peut discuter sur la manière, on pouvait attendre la fin des épreuves pour l'annuler, pour éviter tout ce qu'il y a eu après.
Ouais. Mais quand vous dites tout ce qu'il y a eu, c'est que vendredi dernier, justement, à l'annonce du report de l'épreuve du baccalauréat, des milliers d'élèves sont descendus dans la rue. Hein. Ils ont incendié des pneus, pillé des magasins, brisé des vitres de voitures. Ces événements se sont produits à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisy. Ne raccrochez pas, Armel. Nicodène, bonjour.
Bonjour, Juan.
Il ne fallait pas annuler le bac, avez-vous dit au standard?
Oui, il ne fallait pas annuler le bac, parce qu'il fallait éviter les charges financières au budget de l'État. Et aujourd'hui, il faut comprendre que reprendre le bac, ce sont les mêmes personnes qui l'ont organisé il y a même pas un mois. Est-ce qu'ils auraient changé des choses? C'est une manière seulement de les enrichir. Moi, je pense qu'on doit prendre, moi, je pense qu'à moi, à ce niveau, l'incompétence et l'insuffisance intellectuelle du ministère est démontrée. Je sais qu'au Congo, dans nos dictionnaires, le mot ridicule et démission n'existe pas, mais je pense qu'il devait être radié du gouvernement, parce que vraiment c'est une honte.
Mais en même temps, lorsque les sujets du bac se retrouvent sur Internet, ça jette quand même le discrédit sur la valeur du baccalauréat 2015 au Congo-Brazzaville. Que vaut le bac 2015 au Congo-Brazzaville si tous les élèves avaient accès au sujet avant le jour de l'examen?
Oui, mais il fallait changer le type de correction. Une correction sérieuse et digne allait bien mettre l'ordre. On reprend les charges. Est-ce qu'en un mois, ils sont prêts à organiser un autre examen?
C'est ce qui est prévu. Le ministre de l'Enseignement a annoncé que les 66 000 candidats seront invités prochainement à passer un examen de remplacement. On verra ça, évidemment. Armel, bonne journée à Brazzaville. Et je remercie évidemment Nicodène qui nous appelait également du Congo. Allez, on continue à parler de la FIFA, des scandales qui secouent l'instance internationale du football. François, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour aux amis auditeurs de RFI.
Alors vous regrettez la réaction de l'Afrique et de la Confédération africaine de football qui continue à soutenir Sepp Blatter.
Voilà, beaucoup de regrets parce que juste quelques temps avant l'élection de Blatter, j'ai vu, alors que le scandale battait son plein, j'ai vu des responsables africains, notamment de la CAF et même de certaines fédérations dans mon pays par exemple, ont continué à soutenir sans réserve Blatter. Et c'était une honte parce que quelques heures après son élection, Blatter démissionne. Donc ça veut dire que on n'est pas dans une relation assez franche et logique. Comment vous pouvez comprendre que depuis un bon bout de temps, les gens dénoncent, ça c'est le vase, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Et en même temps, François, pour défendre un peu Sepp Blatter, le bilan africain de Sepp Blatter est quand même positif. Il a fait beaucoup pour le football africain. Donc c'est normal que la Confédération africaine de football tente de le soutenir jusqu'au bout.
J'ai envie de vous dire oui, mais écoutez bien, finalement, on doute de cette relation, finalement. On regarde tout ce qui sort après. C'est vrai que le bilan est positif, mais les contreparties, c'était quoi, finalement? Nous, on s'est réjouis de l'organisation de la CAN du Mondial 2010 en Afrique. On s'est tous réjouis en Afrique. Mais aujourd'hui, quand on écoute ce qui s'est passé, pour que l'Afrique obtienne cette Coupe du Monde, est-ce qu'on n'est pas en droit de se dire finalement tout ce que l'Afrique a obtenu, peut-être que derrière il y avait des pots de vin, il y a des choses qui se sont déroulées qu'on ne sait peut-être pas encore.
Oui, en tout cas, l'Afrique du Sud, elle est accusée d'avoir versé 10 millions d'euros ou de dollars pour organiser la Coupe du Monde 2010 sur son territoire, ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que la Confédération africaine de football était au courant de cet échange.
Monsieur Juan, n'oublions pas que la Confédération africaine de football a soutenu la candidature. Comment elle peut soutenir une candidature alors qu'elle est garante du football africain, ne pas savoir exactement. Elle peut ne pas savoir, mais je pense que pour être clair dans cette affaire, il faut bien que les mêmes investigations qui sont menées à la FIFA, qui doivent être menées aussi à la CAF. Il faut que toutes les
la Confédération africaine de football rende des comptes à un moment donné. François, je vous interromps, on est obligé de rendre l'antenne, c'est la fin de cette émission. On sera de retour évidemment lundi. D'ici là, appelez-nous, le standard reste ouvert. On attend vos questions à la rédaction, toutes vos questions nous intéressent et puis en deuxième partie d'émission, nous parlerons et nous débattrons